France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Est-ce vraiment une surprise ? On va tout droit vers l'obligation vaccinale des soignants. Nous allons, semble-t-il, aussi vers un changement des lieux à passe sanitaire. Nous n'avons pas de détails des jauges pour le moment. On sera fixés ensemble dans moins d'une heure. Nous écouterons le président de la République ensemble et Yael Gauz tout de suite avec nous. Nous fera un petit résumé de ce que nous savons déjà. Mais voici les très grandes lignes de ce que doit donc annoncer Emmanuel Macron. Quelles que soient les décisions, le fond du problème, on le connaît. Comment se débarrasser de ce variant Delta qui est là, qui est bien là et qui risque, disons-le très net, de nous pourrir l'été? Est-ce que les leviers utilisés là sont les bons? Qu'est-ce qu'on fait des jauges? Et sur les passes sanitaires, quand on dit passes sanitaires, si on en croit les clusters créés par l'euro par exemple, est-ce que les PCR ont encore un sens avec un virus qui peut contaminer 6 personnes d'un coup? Est-ce que passe sanitaire peut devenir passe vaccinal obligatoire? Évidemment, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, faisons-le tout de suite. Vous êtes nombreux au standard. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première, c'est vous, Frédéric. Bienvenue et bonsoir.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à nos invités. Moi, je me pose deux questions. D'une part, sur le discours de peur, pour pas dire de panique, qui est propagé actuellement, parce que certes, l'incidence augmente, mais enfin, elle est à des niveaux bien moins importants qu'en octobre et en avril. Et en même temps, tous les indicateurs sont en beau fixe, c'est-à-dire les hôpitaux se vident, les services de réanimation se vident, le nombre de décès par bonheur diminue drastiquement. Donc, d'une part, je comprends pas bien ce discours de peur, et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on vaccinerait tout le monde. Je m'explique, si les plus âgés et les plus fragiles doivent être vaccinés, nous sommes tout à fait d'accord, ça leur donne une première protection. Actuellement, on a environ 40% des Français qui sont vaccinés, j'espère que ce sont les plus fragiles, sinon tant pis pour eux. Et donc ils ont une première protection. Pourquoi rajouter une deuxième protection en vaccinant les plus jeunes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas besoin de vaccin?
Parce que c'est parmi eux que le virus circule, Frédéric, c'est ça que j'ai compris, et qu'il circule surtout à la vitesse de l'éclair.
Il circule, mais nous avons une circulation fantastique de malades bien portants. Je veux dire, actuellement, c'est soit la vaccination est efficace, soit le virus n'est pas dangereux. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas bientôt un nouveau variant, surtout si on vaccine beaucoup, puisque la vaccination favorise l'apparition de variants. Et en plus, je dirais que les contaminations des plus jeunes, contribuent de façon très importante, et tant mieux s'il y en a beaucoup, très importante à l'immunité collective. Donc franchement, je ne comprends pas ni le discours de peur, ni la nécessité aujourd'hui de vacciner tout le monde.
Eh ben, on va poser toutes ces questions à notre invité. Il y a beaucoup de choses dans votre question, Frédéric, et ça nous intéresse. Merci beaucoup pour discuter ensemble ce soir. Philippe Amouyel est avec nous, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir, monsieur Amouyel.
Bonsoir.
Benjamin Davido est là aussi. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, c'est à Garches. Bonsoir, monsieur Davido.
Bonsoir à tous.
Et Yael Gauz, bien sûr, nous a rejoint aussi du service politique de France Inter. Bonsoir à vous, Yael.
Bonsoir.
Je vais vous poser à tous les deux, messieurs, si vous le voulez bien, la série de questions de Frédéric. Il y a un certain nombre de choses qui nous intéressent et que vous devez soit approuver, aller dans son sens, soit au contraire nous aider à comprendre, on va dire. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment que le discours qu'on nous tient en ce moment est un discours de peur et de panique, Philippe Amouyel? Est-ce que c'est comme ça que vous le sentez aussi?
Non, beaucoup moins que ce qu'on a pu entendre lors des vagues précédentes. C'est un discours qui cherche à anticiper. Et je crois que ce qui est très important, et ce que disait Frédéric il y a quelques instants, on a l'impression que tout va bien, les indicateurs diminuent. Ce que l'on sait, et on l'a vu lors de la deuxième vague, rappelez-vous, en revenant de vacances, les indicateurs allaient très bien aussi. On s'est trouvé avec une montée exponentielle quelques semaines plus tard. Là, on a anticipé. On sait que les indicateurs sont bien, c'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est pour ça que ces actions, qui sont pas réellement anxiogènes, qui sont plutôt encourageantes dans le sens de protégez-vous, protégeons-nous tous, vont dans le bon sens.
Quand il dit, notre ami auditeur, Benjamin Davido, que au fond, ce qui circule en ce moment, ce sont des malades bien portants. Est-ce qu'il a raison, Frédéric ?
Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que des malades bien portants, par définition, lorsqu'on est malade, c'est qu'on a des symptômes. Et la problématique, notamment chez les jeunes aujourd'hui, qui est la catégorie où le taux d'incidence est le plus élevé, c'est un risque de faire un Covid long. Mmh. Et vous le savez comme moi, c'est 5 à 10% des gens. Et ça peut être un vrai problème de santé publique, presque plus grave que la maladie au sens propre avec les hospitalisations. Mmh. Et puis un mot, parce que avant la tempête, eh bien en général, il y a le calme. Et la problématique, c'est qu'on voit se dessiner une virgule des hospitalisations en Angleterre, parce qu'on a atteint, ça y est, un nombre considérable à nouveau de contaminations.
Des hospitalisations et aussi des réanimations, ou pour l'instant on n'est qu'au stade des réanimations, qu'est-ce qu'on sait de ça, Benjamin Davido ?
Alors pour l'instant, aujourd'hui, il y a une décrue qui se poursuit, en tout cas en France. En Angleterre, ce qu'on voit, c'est une augmentation des hospitalisations, et donc par définition des hospitalisations également en réanimation, même si bien sûr ça commence d'abord par les hospitalisations dites conventionnelles, c'est-à-dire des formes modérées à sévères, et ensuite des formes qui entraînent le pronostic vital. Et comme le disait très bien Philippe Amoyal, aujourd'hui on est dans une situation d'anticipation, et je crois que ça paraît légitime. À partir du moment où on a les outils pour anticiper, il vaut mieux se mettre dans un scénario où on réussit plutôt qu'un scénario où on est face à un mur.
Philippe Amoyal, pour en terminer avec la question de Frédéric et revenir un petit peu sur cette idée qu'il a, lui, qu'au fond, il y a des malades bien portants qui se promènent. Ça veut dire, selon lui, qu'en fait, même si le virus circule chez les jeunes, en effet, ce sont surtout des gens qui sont asymptomatiques. Donc, c'est ce qu'il appelle, lui, les malades bien portants. Moi, je voudrais savoir si on sait si ce variant provoque autant d'asymptomatiques que les précédents, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est plus malade avec ce variant-là ? Est-ce qu'il est plus dangereux ? Ou est-ce qu'on est dans les mêmes eaux, dans les mêmes doses que le Covid originel, si je puis le dire comme ça, et les variants suivants ?
En fait, on n'a pas d'informations puisqu'on n'a pas fait d'enquête dans ce sens-là, mais ce qu'on peut déduire de ce qu'on voit actuellement, c'est que, en effet, il existe des formes asymptomatiques qui sont essentiellement chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que maintenant, un grand nombre des personnes qui ont un âge plus avancé sont vaccinées, pas suffisamment encore, et du coup, il y a en effet cette trace de contamination. Mais c'est ce qu'on avait déjà retrouvé avec le variant anglais et avec les précédents variants. Mmh. En gros, les Anglais qui ont fait des estimations considèrent que pour un cas symptomatique, il y a un cas asymptomatique. Et c'est ces deux groupes-là qu'il faut identifier. Or, c'est là que la vaccination a un rôle, parce que justement, d'une part, elle vous empêche de faire une forme grave, et quand vous êtes asymptomatique, elle divise par 10 votre risque de contaminer une autre personne. Et c'est comme ça qu'on luttera contre les variants.
La vaccination favorise les variants. C'était aussi dans la question de Frédéric. J'aimerais vraiment que vous nous donniez votre sentiment là-dessus, monsieur Amoyal.
Alors non, c'est en fait
c'est l'inverse,
c'est un raccourci. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tant que le variant peut se multiplier, il se multiplie, il fait des erreurs, et certaines de ces erreurs lui permettent de se sélectionner, en particulier une infectiosité plus grande. C'est ce qui se passe avec le variant Delta. Autre élément, quand un nombre insuffisant de personnes sont vaccinées, à ce moment-là, le variant peut quand même circuler et contourner le vaccin. Donc plus on aura de gens vaccinés, plus on bloquera les variants. Donc c'est ce qui est important, on est justement à une phase charnière où on a 40% des Français, un variant qui se transmet à très grande vitesse, donc il faut accélérer la vaccination, c'est une vraie course contre la montre pour justement éviter que de nouveaux variants plus résistants apparaissent.
Yael Gauz, la difficulté de l'exercice d'Emmanuel Macron à venir, on en a déjà donc une bonne teneur, on interrogera évidemment nos invités dans un instant sur cette vaccination obligatoire des soignants ou pas, mais on a l'impression qu'il est là sur sa ligne de crête pour savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour enrayer ce variant, et en même temps sans braquer une population qui est déjà assez largement braquée quand même.
Oui, c'est complètement ça, et ce que disait Frédéric tout à l'heure révèle aussi ce risque de fracture vaccinale qui est redouté au sommet l'État dont on parle beaucoup. Visiblement, on se dirige vers un président qui a décidé quand même d'y aller assez fort sur l'incitation à la vaccination. C'est-à-dire, vous ne vous vaccinez pas, vous n'aurez pas toutes les libertés et la vie normale que d'autres auront toujours grâce au vaccin. La différence avec l'été dernier, c'est que là, on anticipe. C'était très bien dit par Philippe Amoyal. On anticipe. Il y a ce souviens-toi l'été dernier qui revient souvent chez les cadres de la majorité. En mode, on n'avait pas anticipé suffisamment tôt. Là, on a le vaccin. Donc, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour l'exécutif qui ne veut pas aussi revivre une rentrée sur des sujets qui ne seront pas les siens. Et puis, on approche aussi de l'échéance présidentielle. Donc, il reste 6 mois utiles pour réformer, pour gouverner. Emmanuel Macron sait qu'avec une vaccination massive, la vie peut être à peu près normale et donc aussi l'agenda économique et politique qui est très important, la relance.
Avant de retourner au standard Yael, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire, hein? Qu'est-ce qu'en l'état, selon vous, il ne peut pas dire?
L'obligation pour tous.
Voilà, parce que nous ne sommes pas prêts.
L'obligation pour tous, parce que juridiquement, ça pose question, il peut y avoir des recours. Est-ce que le motif d'intérêt général de la sécurité, de la protection pour tous l'emporterait sur un vaccin qui n'est pas encore suffisamment éprouvé dans le temps? C'est un point d'interrogation. Et surtout, cela risquerait de ruiner les derniers efforts pour convaincre les derniers récalcitrants, 15-30% de la population, ça dépend si on dit récalcitrant ou hésitant, ce n'est pas la même chose. Il y a encore de la pédagogie possible.
Il y a une marge de pédagogie à faire. Ouais.
Voilà.
Keren est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je crois que j'ai eu la réponse à ma question dans le discours précédent, mais on va me la confirmer. Donc moi j'avais compris, peut-être vous me corrigerez si je me trompe bien sûr, que le vaccin protège des formes graves, mais pas d'attraper le virus et donc pas de le transmettre. Moi je suis vaccinée, mais je me demandais, en ayant cette hypothèse, la première que je viens d'énoncer, dans ces cas-là, pourquoi on pousse tout le monde à se faire vacciner si ça n'empêche pas de la circulation du virus?
Eh bien, on va répondre tout de suite à votre question, Keren. Et c'est vous, monsieur l'infectiologue Benjamin Dalvido, qui allez le faire pour Keren.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors d'abord, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, on a 12 fois plus de chances d'être contaminé par quelqu'un qui n'est pas vacciné que par quelqu'un qui est vacciné. Et ça, ce sont les dernières données de l'Institut Pasteur. Et puis, c'est vrai, on parle beaucoup de l'efficacité de plus de 90% de tous les vaccins face aux formes graves. Mais les vaccins ont une efficacité également pour ne pas faire la maladie, ne pas être porteur et donc ne pas transmettre. Et tant bien même, on ferait partie malheureusement des vaccinés qui allons transmettre, eh bien la probabilité est divisée par deux par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné, donc il y a un gain collectif. Et donc, je vous le confirme, en ayant eu deux doses de vaccin, vous jouez collectif et vous réduisez la circulation du virus.
Philippe Amouyaï, voici la question d'Anne-Marie qui est dans le Val-de-Marne et qui dit « Je suis vaccinée, je pars à la Réunion et je dois quand même faire un test PCR. À quoi bon être vacciné dans ce cas ?»
Et non, parce que justement, comme le disait Benjamin Davido il y a quelques instants, vous pouvez être vacciné et contracter le virus, mais vous ferez une forme asymptomatique ou même pas, vous n'aurez aucun symptôme. Seul problème, c'est que si vous êtes dans un avion un petit peu confiné, vous risquez quand même de peut-être le transmettre à une ou deux personnes autour de vous. Donc c'est une mesure de protection supplémentaire, comme on le fait également lorsqu'on doit réaliser une intervention chirurgicale ou prévoir une hospitalisation, parce que le risque est très faible, mais il existe quand même. On ne peut pas avoir le risque nul et on ne peut pas se permettre justement de démarrer des clusters autour de gens qui ne seraient pas vaccinés.
Donc ça veut dire que tant qu'on ne s'est pas débarrassé quasiment à 100% de ce virus, on devra de toute façon passer par la case test PCR à de multiples occasions. C'est aussi ça que ça veut dire.
C'est pas très rassurant, parce que si tout le monde est vacciné, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de faire les tests PCR, parce que le test PCR protège ceux qui ne vont pas être vaccinés. Qui ne seront pas protégés.
J'entends, tiens d'ailleurs, puisque je vous tiens là-dessus, cesser le remboursement des tests PCR, par exemple, est-ce que ça vous semble une idée judicieuse? Est-ce que ça permettra à certains, selon vous, d'aller vers la vaccination plus facilement que vers ce qu'on appelle désormais un test de confort?
Alors, il faut réellement parler des tests PCR de confort, pas les tests dont on a besoin médicalement, par exemple, quand vous allez préparer une intervention ou quand vous avez des symptômes, mais des personnes qui éviteraient de se faire vacciner en pouvant participer dans le cadre d'événements de type passe sanitaire ou passe sanitaire européen en faisant des PCR à titre répétitif. Je pense pas que ce soit une grande partie de la population, mais si ça peut inciter ces gens-là, en tapant sur le porte-monnaie, a finalement préféré une vaccination remboursée à des tests PCR itératifs payants, ce serait utile, en effet.
Christine, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis vaccinée, j'ai bien fait les deux doses. Mais ce samedi, je participe à un mariage sans convive. Dois-je faire un test? Quel test? Dois-je porter un masque à l'intérieur? Et pour moi, ce n'est pas un discours anxiogène qu'il y a en ce moment, mais bien un discours préventif, et je me demande des consignes. Pour moi, c'est pas un mot trop fort, ce mot consigne, mais je le maintiens, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des éclaircissements, parce qu'on a quand même un peu dans le vague. Merci.
Je vous comprends, Christine, et merci à vous, Benjamin Davido. Avant les 100 personnes de son mariage, est-ce que Christine fait un test pour voir?
Alors d'abord, ce qui est important, et elle l'a bien dit, c'est qu'il faut qu'elle mette le masque lorsqu'elle est dans une atmosphère confinée en intérieur. Très clairement, en extérieur, ça n'a pas de sens. Et en effet, malheureusement, lorsque tout le monde n'est pas vacciné, eh bien on sait qu'il y a un risque lorsqu'on dépasse le nombre symbolique de 10 convives. Après, on est vraiment dans une situation du cas par cas, et je suppose maintenant c'est un petit peu la norme pour les mariages en général. Les mariés envoient un faire-part suivi d'un test PCR, mais ce qui montre très bien
c'est tellement
qu'on a
glamour.
Besoin justement, plutôt que d'attraper la jarretière de la mariée, de tous être vaccinés pour se protéger les uns les autres.
Benjamin Davido, nos auditeurs l'ont sûrement attendu dans le journal de 19h tout à l'heure, certains disent désormais que le virus passe malgré le masque, et c'est ça aussi sa force. Est-ce que c'est une réalité ou pas ?
En réalité, comme ça a été bien expliqué, le fameux R0 dont on parlait beaucoup au début de l'épidémie, il est autour de 6 et 7, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fort. Pour vous donner un petit exemple, il est aussi fort que la variole et presque aussi fort que la rougeole. Mmh. Ça veut dire que le virus, il essaye de passer à travers les mailles du filet et donc les mailles de votre masque. Et c'est pour ça, encore une fois, que quand on a des chiffres aussi importants de transmission, vous voyez, je vais en venir, la variole, la rougeole, ce sont des vaccins qui sont devenus obligatoires parce qu'on ne peut plus se permettre de jouer à pile ou face.
Mélanie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Mélanie.
Oui, je vous appelle du Var, je suis restauratrice et je comprends la nécessité de contrôler l'épidémie, moi-même je suis vaccinée, mais je sens poindre l'obligation vaccinale pour que les gens puissent manger à l'intérieur de mon restaurant et je suis écœurée parce qu'on va me demander à moi de me battre avec les anti-vaccins, d'expliquer alors que j'ai pas les compétences et alors que les professionnels de la médecine n'ont même pas le courage de les affronter, quoi. Je suis écœurée.
J'entends ce que vous dites, Mélanie, et c'est une vraie question. Alors, il faudrait la poser à un politique à l'occasion. Je vais quand même vous la poser à vous, les médecins, parce que oui, elle sera confrontée à ça, Mélanie, en tout cas un certain nombre de restaurateurs ou d'autres, Philippe Amouyel, par exemple. C'est compliqué de laisser les gens dans cette situation-là.
Oui, c'est compliqué, je comprends très bien Mélanie, mais le risque, c'est que plus on aura de gens vaccinés, plus on aura d'altercations entre des vaccinés contre des non-vaccinés au sein d'établissements qui acceptent des non-vaccinés. J'ai eu l'exemple, il y a 15 jours, j'ai déjeuné dans un restaurant, c'est la première fois que je retournais au restaurant, et à ce moment-là, deux personnes relativement âgées ont demandé à la personne qui les servait si elle était vaccinée. Cette personne a répondu malheureusement non, et ils ont fait un esclandre dans le restaurant. Donc ce genre de réaction qu'on commence à trouver sur les réseaux sociaux, moi, m'inquiète beaucoup par rapport à cette fracture vaccinée-non-vaccinée qui n'ira peut-être pas nécessairement dans le sens attendu, c'est-à-dire ce serait une pression d'une majorité de gens qui seraient vaccinés en se disant « je veux être tranquille lorsque je vais au restaurant et s'il n'y a que des vaccinés, à ce moment-là, je peux tomber le masque ».
Parce qu'on est en train de tomber, Benjamin Davido, visiblement, on verra bien ce que dit le président de la République, mais semble-t-il, on est en train d'abaisser très très furieusement les jauges, hein, on est en train de tourner autour de 50 personnes, visiblement, l'obligation d'avoir un pass sanitaire. D'abord, est-ce que vous avez... J'ai double question. Est-ce que effectivement ça vous paraît bien de descendre là? Ou est-ce qu'au fond, dans ces cas-là, on se dit non mais 50 ça rime à rien, donc on n'a qu'à descendre à 10 et puis comme ça on l'étend à tout le monde. La deuxième question que j'aurais envie de vous poser, c'est que de ce qu'on entend et de ce qu'on dit de la vitesse de ce variant, est-ce que passe sanitaire, c'est-à-dire vaccin ou PCR a un sens, ou est-ce qu'en effet on s'achemine vers passe vaccinal, c'est-à-dire que les gens qui simplement montrent un PCR ne suffiront plus?
Écoutez, votre question, elle est formidable parce qu'elle résume toute la problématique actuelle de tous ceux qui pensent justement comment dessiner l'avenir. Vous avez raison, ce chiffre, le plus il est bas, le mieux c'est, le plus on sera en sécurité. Probablement que si le chiffre de 50 est retenu, ça correspondra à une jauge pour faire de la restauration en extérieur sans que les choses soient extrêmement compliquées. Et encore une fois, vous avez raison de signaler qu'aujourd'hui on parle de passe sanitaire et pas de passe vaccinal. Et la réalité, si on estime qu'il y a à peu près un tiers de la population qui a un schéma vaccinal complet, on peut imaginer que dans le passe sanitaire actuel, il y ait un tiers de vaccinés, un tiers d'immunisés et arbitrairement un tiers de PCR négatif. Ce qui n'est pas du tout pareil que si tout le monde était vacciné. Et un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que la réalité de mise en place d'un pass vaccinal, il nécessiterait justement qu'une plus grande partie de la population soit vaccinée. Et à l'extrême, si tant bien même on décidait qu'à partir du mois de septembre, un pass vaccinal entrait en rigueur, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez aller dans un événement à 100 personnes et que vous avez fait votre première dose, eh bien, il vous faut tout de même une PCR et vous aurez votre sésame dans le jour qui va suivre, et tandis que la vaccination aujourd'hui, elle est malheureusement beaucoup trop lente, et c'est pour ça qu'il faut probablement l'accélérer et rapprocher les doses.
Yael Gauze, sur cette fracture-là, effectivement, et je reviens vraiment à ce que dit Mélanie, qui est une vraie problématique.
Mais oui.
On a l'impression que c'est pour elle la patate chaude, en gros.
Cette lutte anti-variant, anti-virus, version 2021, juillet 2021, elle est bourrée d'injonctions contradictoires. On l'a entendu avec Olivier Véran, qui était invité ce week-end de France Inter, qui disait, oui, les discothèques, on les rouvre, à 30%, pas toutes. Mais attention, ça se verra comme le nez au milieu du visage s'il y a un jour un cluster qui est déclaré dans telle ou telle boîte de nuit. On saura vous retrouver, on saura vous tracer et vous serez co-responsable d'avoir ouvert dans de mauvaises conditions votre établissement. Donc effectivement, quand il y avait couvre-feu ou magasin fermé, c'est la force publique, les forces de l'ordre, la police qui contrôlait ou non le respect de la règle. Là, ça veut dire qu'on délègue le respect de la règle aux professionnels, dans ce qu'elle a du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, et c'est plus tout à fait la même chose.
Non, et ça peut effectivement générer un certain nombre d'ennuis pour eux. Qu'est-ce qui se dit, Yael, qu'est-ce que vous savez de ce qui se dit autour du gouvernement, dans les arcanes du pouvoir, sur ce non au vaccin qui est un non politique, en fait, qui est un non qui dit parce que c'est Emmanuel Macron qui me le demande, alors je ne le ferai pas. Est-ce que ça se sent, ça? Est-ce qu'il s'adresse, surtout? Est-ce qu'on s'adresse à ces gens-là?
C'est, ça se sent, mais ça se réduit aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le schéma de novembre-décembre 2020, où le gouvernement disait, on y va tout doucement, on brusque pas, c'est la pédagogie. Cette fois-ci, là, 6 mois après, le discours a changé. C'est on passe à la vitesse suivante pour pouvoir avoir une rentrée correcte, avoir un pays qui se protège. Pourquoi ? Parce qu'on a vu à l'étranger nos voisins européens subir ce variant plus vite que nous, et donc on a quand même l'expérience, le regard sur les Anglais, le regard sur les Portugais. Donc quand même, vous avez un couvre-feu rétabli dans 45 communes au Portugal. Ça frappe 4 millions de Portugais sur 10 millions quand même. C'est pas rien. Et ça peut arriver chez nous à tout moment. Vous voyez, les Pyrénées-Orientales où l'incidence dépasse les 100, ça y est. Donc on est dans une zone rouge.
Philippe Amouyel, l'obligation vaccinale des soignants, qu'est-ce que ça changera très concrètement? Est-ce que ça fait vraiment bouger les lignes? Ou alors, est-ce qu'on est dans quelque chose de très hautement, parce que certains pays l'ont déjà fait avant nous, très hautement, mais néanmoins symbolique?
Alors, ça a bien sûr une valeur symbolique, mais ça a également une valeur pour préparer une éventuelle quatrième vague. Si jamais, en septembre, malheureusement, les chiffres continuent à monter, qu'on ait des problèmes d'hospitalisation, y compris de réanimation, y compris dans les établissements médico-sociaux ou les EHPAD, il va falloir absolument qu'il n'y ait pas de cas d'infection, on va dire nosocomiale, c'est-à-dire apporté par le système médical, le système de santé ou le système d'accueil et d'hébergement, parce que dans la mesure où on a des vaccins, on sait que ce variant est extrêmement contagieux, les positions de ceux qui malheureusement auront transmis ça à leurs patients seront totalement indéfendables, et sur le plan éthique et sur le plan médical et humain. Donc je pense que c'est important à ces deux titres, et c'est maintenant qu'il faut le faire, puisqu'il va falloir entre 6 et 8 semaines pour obtenir une immunisation complète des personnels de santé, pour être prêt en septembre au cas où on aurait à faire face à une nouvelle vague.
Benjamin Davido, comment ça va se passer chez vous, par exemple, à l'hôpital Raymond Poincaré? Est-ce que vous allez, est-ce que dans ces cas-là, on réunit ceux qui ne sont pas encore vaccinés et on leur réexplique avant la piqûre? Est-ce que vous savez ce que vous allez dire à ceux qui sont parfaitement réfractaires? Est-ce que c'est un souci quand même? Est-ce que vous craignez ça pour ne serait-ce que les relations à l'intérieur de l'hôpital si, comme visiblement c'est le cas, on en vient à une vaccination obligatoire des soignants?
Alors moi j'ai la chance, je travaille dans un hôpital à taille humaine, et donc les gens qui sont pas vaccinés, d'abord je les connais pour un certain nombre, et certains sont déjà résignés et prêts à être vaccinés.
Résignez-vous.
Oui, et en même temps ils sont prêts à être vaccinés parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le choix, et on voit bien que ce qui prend le pas, c'est la volonté de venir en aide aux patients. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe Amouyel, on va avoir besoin d'ailleurs de ces soignants en prévention d'une éventuelle quatrième vague, c'est-à-dire qu'on a besoin des bras. C'est ça qui nous a cruellement fait défaut d'ailleurs pendant la 2 et 3e vague, qui ont été extrêmement longues et extrêmement dures, et c'est pour ça, je le rappelle, que nous ça nous fait pas du tout rigoler, et que nous tout ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient dehors en terrasse et reprennent leur vie d'avant. On veut surtout pas qu'ils arrivent à l'hôpital. Donc je crois qu'aussi, au fond, les soignants, avant d'être soignants, sont aussi citoyens et se rendent bien compte de l'importance de se protéger. Et il y a une dynamique qui, on oublie parce qu'on regarde les chiffres bruts, mais qu'on a une augmentation très forte des primo-vaccinés chez ces soignants qui hésitent. Et je pense que c'est ça le signal qui fait qu'on va tous, à un moment donné, se protéger les uns les autres.
Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, je suis particulièrement étonné qu'on hésite encore à imposer une obligation vaccinale. Je comprends qu'on ne dise pas tout le monde tout de suite, tout le temps, parce qu'il y a des gens qui râlent. Mais il y a d'autres moments où on avait fait autrement. Tout le monde a oublié ce que c'était la rougeole, tout le monde a oublié ce que c'était la variole. C'est quand même été un peu étonnant. Et aujourd'hui, moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse la tranche de salami. Tranche de salami par tranche de salami. Les fonctionnaires, les soignants, les personnes en contact avec le public, chacun une obligation vaccinale séparée au fur et à mesure. Mais il faut y aller. Il faut, comme le disaient les intervenants tout à l'heure, il faut pas tarder. Il faut 6 semaines pour avoir une vaccination complète. Il faut y aller. Sinon, en septembre, on rejoue la pièce de l'an dernier. Voilà.
Merci Jean-François. Philippe Amouyal, est-ce qu'on fait du salami, comme le dit notre ami Jean-François, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait étendre cette obligation, on va le dire, à toutes les catégories qui sont en contact avec le public, en gros?
Je crois que ce qui est important dans ce que dit Jean-François, c'est qu'en effet, on va pas pouvoir vacciner du jour au lendemain toute la population. Il faut identifier les personnes qui vont nous permettre de limiter l'extension d'une éventuelle vague, c'est-à-dire les 5 millions de personnes de plus de 65 ans avec des comorbidités qui ne sont pas encore vaccinées. C'est cette tranche de salami qu'il faut réellement cibler maintenant, le plus vite possible. C'est également, si c'est possible, les plus jeunes, les 25-40 ans à peu près, parce qu'on se rend compte que c'est plus de 60% des infections actuellement qui passent par ces jeunes, et ils ont commencé à leur décharge la vaccination assez tard, hein, le 15 juin. Donc je pense qu'il peut y avoir un rattrapage au cours de l'été, et en ciblant ça, plus les personnels soignants, on répond à l'objectif de la rentrée. Ensuite, il faudra refaire avec une autre tranche de salami. Par exemple, si on va voir le problème des écoles. Si jamais il y a une vague, les enfants ne vont pas être protégés. On attend des résultats d'études pour savoir si on peut vacciner en dessous de 12 ans sans risque et le bénéfice que cela peut apporter. Peut-être qu'il faudra se poser la question dans la rentrée dans les universités, à la rentrée dans les écoles, à faire des vaccinations, mais au mois de septembre. Alors, si on peut le faire avant, tant mieux. Mais il va falloir accélérer tranche par tranche pour finalement, au bout d'un certain temps, peut-être plusieurs mois, considérer que comme il faut une immunité collective qui doit couvrir à peu près 90% de la population adulte, il faudra peut-être se poser la question de mettre au programme, en plus des 11 maladies pour lesquelles on a des vaccinations obligatoires, comme la rougeole, également les virus de type SARS-CoV, de coronavirus ou Covid-19.
Mmh. Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Alain.
Je vous remercie de recevoir. J'ai été malade du Covid-19 en avril avec mon ami. J'ai été surpris d'être positif fort. Je ne savais pas que ça existait. Moi, j'ai été malade 2 semaines, très très malade, et mon ami une semaine. Mmh. On est sportif, on ne fume pas, etc., etc. Ma question vient sur le fait du vaccin. Mon médecin me dit que je ne peux pas me faire vacciner actuellement. Il faut que j'attende 6 mois. Et certaines personnes disent 3 mois. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas. Et sommes-nous comptabilisés aussi dans les gens immunisé.
Et ça, c'est une excellente question, Alain. Merci beaucoup. Question de temps d'abord, Benjamin Davido. Effectivement, quand on a été, nous qui avons ici même à France Inter, des tas de gens qui ont eu le Covid, je vous regarde, Yaël. Vous,
mi-mars.
Alors vous, et qu'est-ce qu'on vous a dit, vous? On vous dit combien de mois pour l'injection?
Alors, on m'avait dit entre 4 et 8 mois, et j'ai effectué ma dose unique de Pfizer il y a 3 jours.
Et qu'est-ce qu'on dit alors, Benjamin Davido, à notre ami Alain? Est-ce qu'il y a un délai réellement à respecter après ou pas?
Alors pour faire simple, initialement c'était 3 mois, puis on a basculé sur 6 mois parce que souvenez-vous, il y avait urgence à vacciner ceux qui n'étaient pas immunisés et qui n'avaient pas rencontré l'agent infectieux. Aujourd'hui, cette barre, elle est revenue à 3 mois. Elle va probablement même à un moment donné se rapprocher. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a fait la maladie, on a très peu de chances dans les 45 jours suivant l'épisode de se réinfecter. Et donc 3 mois, c'est probablement la bonne date pour avoir à la fois des anticorps puissants contre le variant Delta. Et d'ailleurs, j'insiste, ceux qui ont fait la maladie, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'ils ont une dose de vaccin, ils sont plus immunisés que quelqu'un de vacciné. On appelle ça les super immunisés. Et puis, on a le fameux sésame du passeport sanitaire.
Comment il s'appelait, pardon, j'ai oublié votre prénom. Alain nous disait qu'il a eu ce qu'il appelle il a été positif fort, dit-il. Il a été vraiment malade pendant 2 semaines. Est-ce que ça ne change absolument rien qu'on ait été très fortement malade ou asymptomatique ou moyennement malade en termes de production d'anticorps, en termes de protection après la première dose? Est-ce que ensuite tout le monde est remis sur une sorte de pied d'égalité ou pas?
Oui, alors en fait, c'est arbitraire, c'est le titre de la machine qui dit qu'il avait beaucoup de virus, ça veut dire qu'au moment donné, il a fait le test, il était à la phase la plus haute de sa contamination. Et en fait, ce qu'on sait des études, c'est que plus on est symptomatique, plus on est âgé, plus on va cracher d'anticorps. Et encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, chez les sujets jeunes, l'intérêt de la vaccination aussi, c'est d'avoir des anticorps circulants, ce qui n'est pas toujours le cas.
Yael Gauze, regardez une question qui ressemble à celle de Mélanie tout à l'heure et qui dit jusqu'à quel point ça fait partie des questions auxquelles le gouvernement aura à répondre d'une manière ou d'une autre. C'est Elisa qui nous dit « Je suis dans une pâtisserie d'une toute petite ville avec un fort potentiel touristique et je me bats tous les jours pour faire porter le masque à l'intérieur. Il y a une majorité de gens qui oublient, elle y a mis des guillemets, de mettre le masque, qui s'excusent et ça parfois se couvre, mais un très grand nombre qui sont totalement réfractaires. Cela va de « je suis vacciné » à « ça sert à rien » ou « le virus n'existe pas ». Donc elle a vraiment tout le panel. Aucun argument ne leur semble valable et je suis épuisée, dit-elle.
D'où, sans doute, on le verra dans quelques minutes, on écoutera le président, d'où ce changement de braquet qui se profile vers une incitation forte à la vaccination sous peine de ne pas vivre comme les autres, de ne pas avoir les mêmes libertés. C'est ça qui se profile quand même. C'est comme ça l'équation qui est nouvelle. Et Olivier Véran disait lors d'un déplacement avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, c'était jeudi, dans un centre de vaccination à destination des jeunes, le vaccin vous prémunit contre le reconfinement. 100% garantie contre le
c'est
confinement.
Ça, c'était ça la phrase, le 100%.
Et oui, c'est vrai que c'est un argument. Voilà.
Pour un certain nombre de gens qui nous écoutent. Alexandre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
La question que j'avais, donc je me suis fait vacciner la semaine dernière pour ma première injection avec Pfizer. Je voulais savoir quel était mon niveau de protection jusqu'à la seconde injection qui aura lieu dans quelques semaines, mi-août. Première chose, et vis-à-vis de ma femme qui est enceinte, je voulais savoir quelles sont les recommandations vis-à-vis du vaccin. Plusieurs médecins nous ont dit qu'il n'était pas recommandé pour une femme enceinte de se faire vacciner. Je voulais savoir ce qu'en pensaient vos invités.
Merci beaucoup, merci. Alexandre. Benjamin Davido, c'est fou. Vous avez fait plusieurs téléphones sonnent avec nous. Je suis sûr que vous avez déjà eu cette question. Philippe Amouyal, j'en suis sûr, on nous la pose à chaque fois, celle des femmes enceintes et du vaccin. Donc il faut à nouveau rassurer toutes les femmes enceintes qui nous écoutent. Benjamin Davido, si vous êtes...
Oui, écoutez, bien sûr, on peut tout à fait se faire vacciner quand on est femme enceinte. Au contraire, c'est même recommandé caricaturalement à partir du second trimestre, c'est là où on a le plus donné de science, parce qu'on sait justement, comme pour la grippe H1N1, que ces femmes-là, et on le voit d'autant plus avec les variants, sont à risque de faire une forme symptomatique, et évidemment, c'est compliqué ensuite pour le bébé chez une femme enceinte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, par rapport à l'efficacité d'une dose seule, ça dépend du type de vaccin. Même avec des vaccins robustes comme ARN messager, on est proche de 60% avec une seule dose. Ça veut dire que c'est insuffisant et que très clairement, ce que nous a appris les variants, c'est que le schéma initial des industriels de pharmaceutiques, qui était à 3 semaines ou 1 mois pour Pfizer et Moderna, était nécessaire et ils avaient vu juste. Et donc, ça veut dire qu'il faut impérativement, à mon sens, qu'on rapproche ces doses pour que ces gens-là soient couverts le plus tôt possible, ce d'autant qu'il est avec une femme à risque et donc il a raison de se vacciner.
Philippe Amouyal, je vois revenir sur mon compte Twitter, là en l'occurrence, une question à laquelle on a déjà répondu, mais quand elle revient, il faut y retourner. Pourquoi se faire vacciner avec un vaccin qui est toujours en phase d'essai clinique, nous dit un internaute, Philippe Amouyal. Est-ce qu'on réexplique ce que ça veut dire que cette fameuse phase 3 et où nous en sommes réellement de ces vaccins d'ailleurs autorisés en France ?
Alors, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que ces vaccins, en particulier les vaccins ARN ou le vaccin AstraZeneca, ont été injectés sur la planète à 3 milliards de personnes. On n'a jamais eu un essai clinique de cette dimension, avec ce nombre de personnes, sans que ça ait entraîné d'événements, à part ceux qu'on a décrits, majeurs en termes d'effets indésirables ou d'effets prolongés. En général, les effets de ces médicaments, de ces vaccins, pardon, apparaissent au plus tard, au bout de 2 mois, les effets indésirables. Donc ça veut dire que là, on est dans une situation unique dans le médicament. C'est une population qui, à peu près en 1 an, a été vaccinée, qui est quasiment 1/3 de la population de la planète.
Qu'est-ce qui se passe, Benjamin Davido, quand on a raté, entre guillemets, sa deuxième dose ? C'est-à-dire, on n'a pas fait la deuxième à temps, on a laissé courir le temps. Est-ce qu'il faudra, du coup, revenir en arrière, première, deuxième ? Ou est-ce que même si on est très, très éloigné, alors qu'on ne le devrait pas, la deuxième dose aura la même efficacité ?
Non, a priori, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut évidemment essayer de respecter le plus possible le calendrier. Et souvenez-vous, c'est ça d'ailleurs qui nous avait permis d'espacer les doses historiquement lorsqu'on n'avait pas de doses. À titre d'exemple, le Canada avait, lui, prévu 2 injections à 3 mois d'intervalle, ce qui est beaucoup plus que les 3 semaines originelles. Donc il faut évidemment les faire le plus tôt possible pour pas se retrouver dans une situation de creux de la vague et de se contaminer, mais il n'y a pas de problème.
Anne, bonsoir. Anne, est-ce que Anne est là ? Je ne sais pas si Anne est là. Pendant que Anne n'est pas là, vous êtes là, Anne, ou pas ? Eh ben visiblement, il n'y est pas. Benjamin Davido, j'ai une question qui vient sur Twitter, encore une fois, qui dit « Si on impose le pass sanitaire dans les restaurants, qu'est-ce que je vais faire avec mes salariés non vaccinés? Est-ce que je vais exiger un PCR tous les jours? Est-ce que je vais les virer ?» me demande-t-il. J'imagine que vous n'en savez rien pour ce qui est de notre ami internaute qui est restaurateur, mais est-ce que vous savez comment vous allez faire, vous, dans votre hôpital, si quelqu'un refuse de se faire vacciner?
Bah d'abord, encore une fois, je pense que l'obligation vaccinale ne sera pas aujourd'hui pour demain, ça c'est la première des choses. Et très clairement, vous soulevez une question qui est problématique et qui initialement avait fait balayer la question de l'obligation vaccinale hormis la quantité des doses, c'est qu'on avait besoin des soignants à l'hôpital, dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux. Et donc ça va être un problème, parce qu'il va falloir en effet les convaincre et ne pas qu'ils se braquent. Mais encore une fois, j'insiste, quand on regarde de plus près, une grande catégorie des soignants a déjà reçu la première dose, ça veut dire par définition qu'ils vont recevoir la deuxième, et c'est ça qui prime. Et donc je pense qu'il faut aller vers des mesures associées incitatives et expliquer le bon sens de cette vaccination que de se mettre dans une situation où on va se mettre à dos les gens.
Oui, les héros ne sont pas devenus, ne vont pas devenir des salauds. Ça, c'est Pascal Chanvert qui dirige le syndicat des directeurs d'établissements d'EHPAD qui le dit. N'empêche, cette obligation vaccinale pour les soignants, elle va venir vite. Si on suit le calendrier parlementaire, c'est bouclé avant le 25 juillet et ça entre en vigueur à la rentrée, en septembre, avec contrôle et sanctions à la clé. Tout le débat parlementaire de la troisième semaine de juillet, donc du 21 juillet au 25, ça va être de savoir quelle gradation de sanctions. Quelle sanction? Est-ce que c'est l'exemple italien? Est-ce que c'est retenu sur salaire? Est-ce que c'est
Alors les Italiens, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, il y a eu des mises à pied sans salaire, etc. Après, la question est différente si vous êtes à la PHP, donc dans le service public, ou si vous êtes là comme notre ami restaurateur et que l'un de
vous...
Ah
oui, on parlait des soignants, bien sûr.
Alors si effectivement... Oui, vous avez parlé des soignants.
On en revient à la police, à la place de la police. Absolument. C'est le même débat. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec l'accueil du public quand vous êtes restaurateur et vos salariés s'ils ne sont pas vaccinés?
Il nous reste à peine 20 secondes, Philippe Amouyel. Comme Anne est partie quelque part dans les limbes du téléphone, on s'excuse auprès d'elle. Sa question, je l'ai toujours. Ma mère s'est fait vacciner très tôt. Est-ce qu'elle doit accéder à une troisième dose bientôt?
Alors, si en effet, c'est une personne qui est relativement âgée, qui présente des raisons d'avoir une immunité qui n'est pas très réactive, on se pose la question actuellement et je pense qu'à partir de la rentrée, on va commencer à avoir des plans de vaccination de troisième dose pour des personnes pour lesquelles les taux d'anticorps ne sont pas suffisants, en particulier dans les personnes en gériatrie avec des maladies graves. Ça pourra être très utile.
Chaque chose en son temps. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous pour vos nombreux appels.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France 2.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
La Révolution française, comme si vous y étiez.
Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on ne se disait pas ça.
Sans le roi, avec le peuple pour seul guide, cela s'appelle la République.
Révolution, une immersion hors du commun, demain soir à 21h05 sur France 2 et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv.
Bonjour messieurs, dames, merci de votre patience, on fait au plus vite.
Léa a besoin d'embaucher un boulanger expérimenté car vu le succès de sa boulangerie, elle a du pain sur la planche. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidats et de consulter les CV qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Dans un tout petit instant, l'allocution du président de la République au sujet donc de ce... Et bien c'est maintenant au sujet de ce variant Delta. On se retrouve juste après sur France Inter.
Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, comme depuis le début de la pandémie, je tiens à m'adresser directement à vous. Après m'être beaucoup déplacé, après avoir été à votre rencontre, partout en France, et après avoir longuement consulté. Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19? Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants, grâce à votre civisme à tous, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin, et le déploiement d'un plan de vaccination inédit nous ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Les hospitalisations, comme les décès, sont au plus bas depuis près d'un an. En vous disant tout cela, je pense évidemment aux victimes et à leurs proches. La vie, malgré tout, a pu continuer durant ces mois difficiles, parce que nous nous sommes organisés collectivement. Si nous avons demandé beaucoup aux enseignants, aux parents d'élèves qui ont dû s'adapter dans l'urgence quand soudain une classe fermée, si nous avons demandé beaucoup aussi à nos élèves et nos étudiants, la France a largement préservé l'instruction durant cette crise. 12 semaines de fermeture pour nos écoles depuis mars 2020. Alors qu'aux États-Unis, les écoles ont fermé durant 56 semaines ou en Allemagne durant 34 semaines. Certains cours ont pu reprendre physiquement à l'université ces derniers mois. Nous pouvons être fiers de cela, de ce choix collectif de la nation, d'avoir fait le maximum pour l'avenir de nos enfants et de notre jeunesse. Cet été, comme à la rentrée, nous accentuerons encore nos efforts pour apporter un soutien renforcé aux élèves et aux étudiants qui rencontrent des difficultés. Sur le plan économique, le « quoi qu'il en coûte » auquel je m'étais engagé dès mars 2020, non seulement nous a permis de protéger nos entreprises, nos emplois, mais a préservé le pouvoir d'achat de nombre de Français et est à l'origine d'un vigoureux rebond. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021, en tête des grandes économies européennes. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. Contrairement aux prévisions, l'emploi a résisté et les acquis obtenus depuis 2017 en termes de baisse du chômage sont préservés. En 2020, le Covid a détruit près de 300 000 emplois. Depuis le début de l'année, nous avons déjà recréé 187 000 emplois. Ce seul mois de mai, nous avons atteint un nombre de contrats à durée indéterminée créés inédits, égalant notre record de 2006. Dans tous les secteurs qui, comme la culture, l'hôtellerie, la restauration, le sport, le tourisme, ont le plus souffert, chacun reconnaît que les plans de soutien spécifiques que nous avons mis en œuvre ont permis d'empêcher les drames humains, les faillites, et d'envisager une reprise sereine. Nous restons pleinement mobilisés pour aider ceux qui ont subi la crise plus fortement que d'autres. Les salariés travaillant dans les entreprises qui n'ont pas résisté, ou les jeunes comme les indépendants, qui durant cette période sont malheureusement tombés dans la pauvreté. Je veux vous dire ce soir que nous avons eu raison, collectivement, de rechercher sans cesse l'équilibre entre la protection et la liberté. Raison au début de cette année de protéger la vie sans pour autant refermer le pays. Cette situation maîtrisée, c'est le fruit de nos choix, de nos efforts. Ces choix et nos résultats nous permettent d'aborder les difficultés qui sont encore devant nous avec détermination. Car oui, à l'heure où je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie qui touche tous les territoires, métropoles comme outre-mer. Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation. L'apparition du variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le monde. Parce que ce variant est 3 fois plus contagieux que la première souche, il s'engouffre dans tous les espaces non couverts par la vaccination. Pour y faire face, de nouvelles mesures de restriction ont été décidées aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez, qui s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur. Et si chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée, si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Et plus nous éviterons d'autres mutations du virus, peut-être plus dangereuses encore. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. Un été de mobilisation pour la vaccination. Voilà ce que nous devons viser. Vacciner un maximum de personnes, partout, à tout moment. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. J'ai conscience de ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes prêts à cet engagement. Cela participe en quelque sorte de votre sens du devoir. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Je pense en particulier à tous nos concitoyens de plus de 60 ans et aux personnes vulnérables, dont celles qui sont en surpoids grave, qui ne sont pas encore vaccinées aujourd'hui. Vous êtes celles et ceux qui couraient aujourd'hui le plus grand danger. J'en appelle donc à votre mobilisation. Nous déploierons durant tout l'été la vaccination au plus près du terrain, en travaillant étroitement avec nos médecins, nos pharmaciens, mais aussi nos associations dont je veux saluer l'engagement, et nous irons vacciner celles et ceux qui sont aussi le plus loin des soins. Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, des campagnes de vaccination spécifiques seront déployées dans les établissements scolaires dès la rentrée. Je veux m'adresser enfin à ceux qui, vaccinés les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité diminuer. Je veux ici les rassurer. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là où les premières. Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours du mois de septembre. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir, mais malgré le vaccin, je vous demande à toutes et tous de continuer à être prudents et de continuer à respecter ces gestes barrières contre le virus que vous connaissez bien désormais. En complément de la vaccination, nous allons devoir mettre en place de nouvelles mesures pour freiner le virus. Parce que le niveau de vaccination y est encore très insuffisant et que les hôpitaux sont déjà sous forte pression, l'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion, et un couvre-feu sera instauré. Pour autant, dans l'Hexagone, sauf dans les départements qui dépasseraient un taux d'incidence de 200 et verraient leurs hospitalisations augmenter ou des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets, notre approche sera plus simple. Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous. Dès cette semaine, les contrôles aux frontières seront encore renforcés pour les ressortissants en provenance des pays à risque, avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce pass est disponible sur l'application Tous Anti-Covid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août, et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. En fonction de l'évaluation de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités encore. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Pour pouvoir faire tout cela, je convoquerai le Parlement en session extraordinaire à partir du 21 juillet pour l'examen d'un projet de loi qui déclinera ces décisions. Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Enfin, nous continuerons d'agir pour éviter l'apparition de variants qui pourraient être plus dangereux encore que le variant Delta. Cela passe par un projet immense, mais indispensable, et désormais à notre portée, vacciner le monde. La France, depuis mars 2020, est à l'initiative avec le programme ACT-A qui vise à la fois à produire davantage de vaccins et à donner aux pays les plus pauvres davantage de vaccins. Nous avons déjà donné plus de 2,5 millions de doses et d'ici la fin de l'année, nous donnerons plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins. Nous contribuerons à nous mobiliser justement et à mobiliser tous nos partenaires pour produire plus et donner encore davantage aux pays les plus pauvres, en particulier dans les Balkans, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient. Plusieurs pays sont aujourd'hui fortement touchés et nous allons accroître encore notre aide, et je pense particulièrement à la Tunisie. Pour en finir durablement avec la pandémie, nous devons vacciner partout. Je vous l'avais dit l'année dernière, nous allions devoir vivre avec le virus. Ce sera le cas tout au long de cette année 2021 et sans doute pour plusieurs mois encore de l'année 2022, même si le vaccin change beaucoup de choses. Les semaines à venir seront donc celles de la mobilisation pour bloquer le virus et pour continuer de relancer notre économie. L'été de mobilisation pour la vaccination sera aussi un été de relance. Je l'ai constaté au cours de mes récents échanges avec vous partout en France. Notre plan de relance se déploie à un rythme soutenu. Sur les 100 milliards d'euros votés à l'automne dernier et permis grâce à l'accord européen historique d'il y a un an, 40 milliards ont ainsi été mobilisés sur le terrain. Nous devons faire plus encore, car plus vite nous concrétiserons le plan de relance, plus fort sera notre rebond. Plus vite nous concrétiserons le plan de relance, plus efficace sera notre lutte contre le dérèglement climatique. Un tiers des crédits sont en effet ciblés sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les énergies décarbonées, sur l'automobile zéro émission, tous les secteurs qui concilient écologie et économie, écologie et progrès. Le gouvernement et les préfets s'assureront durant l'été de la bonne mise en œuvre des investissements sur le terrain. Nous allons aussi faire le maximum pour lever les contraintes qui pèsent sur les secteurs justement qui sont les plus en tension et sur vous tous. D'abord, le manque de matières premières, qu'il s'agisse de bois, d'acier, de fer ou de semi-conducteurs, ce qui a retardé de nombreux chantiers et fait monter les coûts. Ensuite, les pénuries de main-d'œuvre. Selon la Banque de France, près d'une entreprise sur deux ne trouve pas de réponse à ses offres d'emploi. Il faut ainsi tout faire ensemble sur le terrain pour y répondre et responsabiliser chacun. Notre priorité de l'été et de l'automne est bien de retrouver non seulement le niveau d'emploi d'avant l'épidémie, mais de nous réinscrire dans une trajectoire de plein emploi. Si nous nous mobilisons pour nous vacciner, pour relancer l'économie, alors nous serons en mesure, en septembre, de préparer collectivement notre avenir. Il nous faudra en débattre de manière apaisée et démocratique. Il nous faudra aussi prendre des décisions. Mais je veux d'ores et déjà partager avec vous quelques convictions fortes. La première, c'est la nécessité de moins dépendre de l'étranger pour certains produits essentiels, certains services, certaines technologies. C'est la nécessité de retrouver le chemin d'une indépendance française et européenne. Parce que nous avons vécu durant cette crise les conséquences de la dépendance. Grâce à l'action menée depuis 2017, nous sommes en train de réussir, de nous améliorer. Des productions majeures pour la vie du pays, comme celle de paracétamol par exemple, ont été relocalisées en France. Une usine géante de batteries pour nos véhicules électriques va prochainement ouvrir sur nos terres industrielles du Nord et préfigurer des investissements massifs dans la transformation de l'industrie automobile. J'ai lancé le mois dernier un plan d'investissement de 7 milliards d'euros pour l'innovation en matière de santé, des usines, de la recherche, chez nous, en France. Nous sommes, depuis 2 ans, la première nation européenne du numérique et de la technologie. Nous devons donc continuer d'investir et encourager ces initiatives qui ont créé plus de 160 000 emplois. Ce défi désormais, qui est le nôtre, est de changer d'échelle, de généraliser partout cette dynamique, de redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, d'agriculture et d'industrie. Réindustrialiser, réconcilier la croissance et l'écologie de production. Au niveau national, la baisse des impôts de production, ainsi que celle de l'impôt sur les sociétés que nous avons décidé, vont permettre d'accélérer ce mouvement. Au niveau européen, la présidence française de l'Union européenne, qui commencera le 1er janvier 2022, nous permettra de bâtir un agenda commun d'indépendance industrielle et technologique. À la rentrée, après le travail et les consultations en cours, nous déciderons d'un plan d'investissement qui visera un objectif, bâtir la France de 2030 et faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain qui, dans les domaines du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies ou encore de l'agriculture, dessineront notre avenir. La deuxième conviction, c'est que nous avons vu la force durant cette crise de notre modèle social. Il a protégé nos entreprises, nos emplois, notre culture, de nombreux secteurs exposés. Il a protégé notre pouvoir d'achat durant la crise. C'est un joyau qu'il nous faut préserver. Ce modèle social français repose sur un fondement, le travail. Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé, pas de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites. La priorité de la sortie de crise sera donc la même que depuis le début du quinquennat. Le travail et le mérite. C'est pour cela que nous allons continuer d'investir dans la formation tout au long de la vie dès cette rentrée. Nous formons durablement plus de demandeurs d'emploi qu'il y a 4 ans, mais ce n'est pas encore assez. Et j'ai demandé au gouvernement, dès cette rentrée, de lancer un plan massif de formation et de requalification des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre, autour d'une volonté simple. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Oui, notre système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures et il faudra aller vers plus de simplicité pour plus de justice. Et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés dans ces secteurs. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Pas demain, pas brutalement, pas de manière uniforme, car il faut prendre en compte la difficulté des métiers, mais progressivement, sur plusieurs années, et par un système qui fait la différence selon le travail réellement exercé. Et donc, l'âge de départ doit être plus tardif. Oui, une vie de travail doit offrir une pension digne. Et donc, toute retraite pour une carrière complète devra être supérieure à 1 000 euros par mois. Voilà ce que je veux, en des termes clairs et simples. Pour protéger les retraites actuelles et celles de nos enfants, sans augmenter les impôts, il est juste et efficace de changer notre système de retraite. J'ai entendu les débats sur le moment. Faut-il faire cette réforme dès ce mois de juillet, à la rentrée ou bien plus tard ? Alors, si je demande au gouvernement de Jean Castex de travailler avec les partenaires sociaux sur ce sujet dès la rentrée, je ne lancerai pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée. Ma troisième conviction, enfin, c'est que la nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse qui a tant sacrifié alors qu'elle risquait peu pour elle-même, à nos aînés qui, plus que les autres, ont craint pour leur vie. Pour notre jeunesse, nous devons continuer d'investir, investir dans la petite enfance, dans l'éducation. Cela demeure plus que jamais notre priorité en sortie de crise. Pour nos jeunes adultes, nos étudiants comme nos jeunes actifs ou nos jeunes qui sont peu formés, nous avons créé la plateforme « Un jeune, une solution ». Nous poursuivrons ce programme qui a permis à 2 millions de jeunes de trouver une formation, de décrocher parfois un emploi, de signer souvent un contrat d'apprentissage. Imaginez, 526 000 contrats d'apprentissage en 2020, ce qui est un record. Pour amplifier cette dynamique, je présenterai à la rentrée le revenu d'engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation et sera fondé sur une logique de devoir et de droit. Quant à nos aînés et nos concitoyens en situation de handicap, trop souvent confrontés à une solitude sans solution, nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie, un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile, des maisons de retraite modernisées. Accompagnement de notre jeunesse, meilleure prise en charge des aînés, c'est un nouveau pacte français entre les générations qu'il nous faut bâtir pour notre nation. Cette ambition devra être financée et ce ne sera pas par une hausse d'impôts. Là aussi, je demeure constant. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la diminution de l'impôt sur le revenu, ce qui représente 170 euros en plus par mois pour un salarié au SMIC, nous avons assumé d'améliorer le pouvoir d'achat et de baisser les impôts, une priorité pour les classes moyennes, et nous ne reviendrons pas en arrière. Nos réformes ne seront pas davantage financées en laissant filer la dette. La nouvelle génération doit déjà assumer la dette écologique. Je n'ajouterai pas à ce fardeau la dette financière. La seule solution, le seul moyen d'assurer ce nouveau pacte est de travailler davantage, d'investir, d'innover, d'inventer, d'améliorer notre croissance et de continuer à réformer. Réformer l'État, comme nous avons commencé à le faire avec la réforme de la haute fonction publique et la suppression de l'ENA, de simplifier le millefeuille territorial, de simplifier partout où c'est possible l'action publique. La seule solution est de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts. C'est ainsi que nous reprendrons le contrôle de notre destin comme nation. C'est ainsi que nous reprendrons chacun le contrôle de nos vies comme citoyens. La volonté que la France doit porter est bien celle-là. Reprendre le contrôle de notre destin. Garantir à chacune et chacun des nôtres qu'il pourra retrouver de son destin personnel, professionnel, familial et civique. Bien des questions devront trouver réponse dans les mois qui viennent, que je n'ai pas ici abordées dans le cadre de ce message ce soir. J'ai bien entendu l'inquiétude que fait naître la montée d'une violence endémique dont sont victimes les plus fragiles, les femmes souvent, y compris dans le couple, de jeunes adolescents dans la rue, et le manque de respect à l'égard des forces de l'ordre ou de sécurité. J'ai entendu le message porté à l'endroit de nos institutions par l'abstention impressionnante aux élections régionales et départementales. Et j'ai en tête les questions qui portent sur les équilibres de notre démocratie. Devant toutes ces questions, j'ai une certitude. Nous devons non seulement prolonger notre effort, mais le renouveler, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Mais des choses dans le monde sont en train de bouger aussi, grâce à des initiatives que propose et soutient la France. Il faudra se souvenir que c'est en ces premiers jours de l'été 2021 que la communauté internationale, dans un effort sans précédent, a décidé d'une imposition mondiale des multinationales à 15% minimum, mettant ainsi fin aux évasions fiscales et aux paradis fiscaux. La France a été en première ligne et a contribué à faire bouger l'Europe et le monde. Mes chers compatriotes, cet été de retrouvailles et de retour aux sources, cet été qui sera fait de moments amicaux et familiaux, devra donc être néanmoins un été de vigilance, de lutte contre le virus, de vaccination. J'ai confiance en vous, confiance en nous, pour rester unis, sereins et déterminés. Alors à la rentrée, nous aurons rendez-vous avec notre avenir, pour bâtir une France indépendante, qui ne vit pas dans la nostalgie, mais sait prendre les décisions nécessaires à sa destinée. Une France conquérante, qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur, mais l'invente. Une France unie, qui sait être solidaire, civique, responsable, dans l'épreuve comme dans la conquête. Vive la République et vive la France.
Voilà pour cette intervention d'Emmanuel Macron avec Yaël Gauze qui est restée avec nous. Yaël, il y a beaucoup de choses dans l'intervention du président de la République. On va revenir d'abord sur tout ce qui touche au vaccin. On va dire le moins fort quasiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui le sont bien plus. Vaccination obligatoire pour les soignants, on l'avait senti venir.
Clairement, le président durcit le ton. On ne joue plus avec la vaccination, on n'attend plus. C'est un été de mobilisation, une nouvelle course de vitesse, dit le président. Il faut se faire vacciner partout, à tout moment. Et donc, dès le 15 septembre, vous l'avez dit, tous les personnels soignants et non soignants, plus les personnes en contact avec des publics fragiles, et bien pour tous ces publics-là, contrôle et sanctions à partir du 15 septembre si la vaccination n'est pas complète, n'est pas effectuée. Il appelle solennellement Emmanuel Macron, tous nos concitoyens non vaccinés, à le faire dès maintenant, car 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui. Donc faites-vous vacciner, le message.
Et nous poserons la question de la vaccination obligatoire, il le dit aussi. Donc ça veut dire que sur cette obligation vaccinale, la porte n'est pas refermée. En tout cas, elle concerne très concrètement les soignants pour l'instant. Et puis, il y a, selon ses propres termes, ne pas faire porter les restrictions sur les non-vaccinés. Et là, une série de restrictions supplémentaires pour ceux qui ne le sont pas, qui est extrêmement importante.
À partir du 21 juillet, c'est quasiment tout de suite, c'est dans une semaine, le pass sanitaire élargi, vraiment élargi, puisque tous les lieux de loisirs et de culture qui accueillent plus de 50 personnes ne pourront être accessibles que si vous êtes vacciné, vous avez un test négatif récent. Donc un pass sanitaire beaucoup plus drastique désormais. Et à partir du 1er août, ouais, et là, ça aussi, ça vient vite, cafés, restaurants, hôpitaux, même pour les salariés, pas seulement pour les touristes ou le public qui rentre, il faudra également montrer ce pass sanitaire. Et quant au test PCR dit de confort, ça sera fini à l'automne. La Sécurité sociale ne les remboursera plus. Les jeunes, à la rentrée, campagne de vaccination spécifique dans les établissements scolaires, campagne de rappel pour ceux qui ont déjà une dose il y a 6 mois, qui ont eu leur vaccination complète il y a 6 mois, pour une troisième dose, rendez-vous ouvert dès septembre. Donc voilà, tout ça s'accélère. Pour le tourisme, isolement des voyageurs non vaccinés en provenance de pays où ils n'ont pas été vaccinés. État d'urgence sanitaire dès demain en Conseil des ministres pour l'Outre-mer, Martinique et Réunion. Le couvre-feu va être instauré sur ces deux départements d'outre-mer. Voilà, et la démarche, vraiment, c'est de faire porter le chapeau désormais aux non-vaccinés.
On le rappelle, donc, les spectacles, les parcs, etc., ça vient très vite, c'est à partir du 21 juillet. Obligation d'un pass sanitaire qui est soit vaccinal, soit un test PCR négatif. À partir du 1er août, les cafés, les restaurants, les maisons de retraite, les avions, les trains, les cars, on parle des clients, on parle des usagers, on parle de tous les gens qui fréquentent ces endroits. Yaël, quand même une chose sur les réformes aussi, parce que l'intervention du président de la République était longue, elle a duré une demi-heure. En gros, on ne change rien, on avance dans le sens des réformes. Celle de l'assurance chômage sera mise en place dès le mois d'octobre, et surtout celle de la retraite aura lieu aussi.
Voilà, tout pendant qu'il y a la crise, tout pendant que l'épidémie n'est pas sous contrôle, il ne fera pas la réforme des retraites. Mais dès que ça ira mieux, il armait l'agenda, il faut un âge de départ plus tardif, dit-il, avec plus de 1000 euros
travailler
de pension pour une carrière plus complète.
Travailler plus longtemps. Voilà. Et jamais moins de 1000 euros pour une carrière complète.
Donc tout ça, il ne fera pas brutalement, mais tant qu'il y a la crise sanitaire, il ne le fait pas. Mais dès qu'elle est passée, et ça peut être peut-être début 2022, on n'y croit pas trop, mais quand même, il le dit.
Une dernière chose, il y avait la garantie jeune universelle, elle devient le revenu d'engagement, ça concerne les jeunes sans emploi, les jeunes en formation.
Il annoncera, il précisera tout ça à la rentrée, c'est la continuation du dispositif Un Jeune Solution, rebaptisé un revenu d'engagement pour élargir cette garantie qui pour l'instant ne concerne que 200 000 jeunes et la passer à 1 million de jeunes. Les maisons de retraite modernisées, ça c'est un autre plan, il appelle ça le nouveau pacte français intergénérationnel, sans hausse d'impôts. Donc on le voit sur la réforme, il privilégie celles qui sont les moins punitives, on va dire, celles qui braqueront le moins les partenaires sociaux et les Français dans ce moment compliqué et la conscience que le virus, on va vivre avec encore en 2022.
Résumé extrêmement rapide des phases très importantes. Il y a donc au chapitre des réformes, cette réforme des retraites qui se fera dès que le virus ne sera plus un sujet en France. Et puis pour ce qui est des restrictions, maintenant l'élargissement des restrictions pour les gens qui ne sont pas vaccinés, les spectacles, les parcs sont désormais soumis à passeport vaccinal, passe sanitaire, pardon.
Sanitaire parce qu'il y a encore le PCR
absolument
négatif possible.
Passe sanitaire à partir du 21 juillet, café, restaurant, bar, etc., train, avion, à partir du 1er août. L'obligation vaccinale pour les soignants est en place et fera l'objet d'une discussion également devant le Parlement, puisque réunion a lieu cette semaine. Petit élargissement de la période parlementaire pour pouvoir avoir ces discussions-là.
Effectivement, donc 25 juillet pour adopter le paquet de mesures.
Et merci beaucoup, Yael Gauze.